Bonsoir. Patrick Chorel. On ne présente plus à Bayeux, je crois qu'on préside. Qui a déjà présidé le Festival de Bayeux il y a quelques années, qui vient régulièrement, photographe, documentariste, écrivain, et on a réalisé ce film ensemble. Jean-Claude Guibaud qui préside le festival cette année. Et mon ami Stanko Vasic de Sarajevo. Que vous venez voir dans le film. Je ne vais pas être le modérateur d'une conversation. On est à votre disposition plutôt pour des commentaires et des questions. Souvent, on fait ça, Patrick et moi, tous les deux. Donc, si Jean-Claude ou Stanko veulent s'exprimer. Déjà préalablement, et surtout, discutons tous ensemble, on est à votre disposition.
Moi, je veux bien dire un mot d'admiration. Parce que je pense que, quand on regarde ce film, on ne peut être que modeste, humble, et reconnaissant à Rémi d'avoir fait cela. Et je le dis, moi, j'ai fait que deux petits séjours à Sarajevo. À l'époque, nous... Avec Reporters sans frontières, nous tâchions d'aider le journal Oslobodjene à continuer de paraître. Et donc, on a fait des visites avec des directeurs de journaux. Mais ces deux petits séjours, sans doute de 5 ou 6 jours chacun, les images que j'avais conservées, je les ai toutes retrouvées dans le film. Et c'est des images qui m'avaient profondément marqué. Par exemple, le fait que à un moment donné, au bout de 1 ou 2 ans, les gens de Sarajevo avaient pris l'habitude et reconnaissaient les passages dangereux dans la ville. Ils savaient exactement quand ils étaient protégés et quand il fallait tout d'un coup courir pour passer à un endroit à découvert. Et j'ai vu à plusieurs reprises des couples qui décidaient de passer l'un après l'autre pour ne pas être tués ensemble. Ils avaient des enfants et ils nous expliquaient ça. J'ai vu, je vous rends encore l'image, on le voit un peu dans le film, ces jeunes femmes qui voulaient absolument aller danser, malgré tout, pour montrer que la vie était plus forte. Et je vois encore ces jeunes filles qui couraient avec à la main leurs deux chaussures à talons pour courir plus vite, qui traversaient une rue, puis ensuite qui remettaient leurs talons pour aller danser. J'ai vu toutes ces images. Je me souviens, je ne connaissais pas l'histoire de cette publicité, le coureur qui traverse et qui s'arrête et qui fait un doigt d'honneur, mais il se trouve que moi j'ai vu quelqu'un n'était pas dans une publicité, qui a fait la même chose. Depuis l'hôtel Holiday Inn, où j'étais avec un confrère qui venait de créer Courrier International, nous avons vu en effet quelqu'un qui courait, qui tout d'un coup s'est arrêté. Il s'est arrêté, il s'est tourné vers les collines, et il a fait un doigt d'honneur, il a continué à marcher doucement jusqu'au bout de l'allée, comme par une espèce comme ça, une espèce de défi. Donc vraiment, je suis très très reconnaissant. Je ne vais pas m'étendre longtemps, mais il se trouve que, bon, je me suis beaucoup intéressé à la guerre et dans ce film, j'ai retrouvé à peu près tous les ingrédients de la guerre. Et non pas dit de manière abstraite, mais montré concrètement. Je veux dire par exemple la peur, le désespoir et en même temps l'espérance, malgré tout, têtue, la capacité d'être généreux. J'ai trouvé magnifique cette interview où le garçon dit il faut savoir si... Quand on n'a pas vu de pomme pendant un an, il y a ceux qui vont manger la pomme en cachette et ceux qui, malgré tout, continuent à la partager. C'est des phrases magnifiques, quoi, qui résument beaucoup de choses parce que, en effet, cette guerre-là, et la guerre en général, il y a aussi des gens qui, contre toute attente, continuent de garder l'espérance. Donc, franchement, je suis très ému. Si tu me permets, Rémi, j'aurais une toute petite critique. Chauvine, parce que moi, je suis français. Alors, peut-être que c'est ma mémoire qui me trompe, mais je crois quand même me souvenir que dans le fait d'avoir convaincu les Nations Unies de passer d'une force désarmée à une force d'intervention armée, après l'épisode du pont que Jacques Chirac a décidé de reconquérir quoi qu'il coûte, je pense que l'action de Jacques Chirac a été pour quelque chose. Je crois me souvenir qu'il a largement contribué à convaincre le président Clinton d'intervenir. Alors, il aurait peut-être pu le faire plus tôt. Mais je pense que voilà, petit hommage à Jacques Chirac. En plus, je le rends d'autant plus volontiers que politiquement, ce n'est pas tout à fait mon camp. Donc je ne suis pas là pour défendre. Mais vraiment, honnêtement, Je vais essayer de me procurer ce DVD, absolument, parce que je veux garder ce film. Voilà, je trouve vraiment merci d'avoir fait ça. Avec en plus, pas de discours, pas de pathos, uniquement une série de témoignages. Ouf, bon, voilà, merci. Merci vraiment.
Bonsoir.
Présenter le film, je vous précise, avec Stanko, il y a une petite projection privée déjà pour tous les gens qui sont dedans avant la sortie dans tout autre pays, donc en février, parce qu'il est sorti en France en mars. Et puis la vraie sortie en Bosnie a eu lieu au mois d'août, au Festival du film, où il y a eu 2-3 projections où Stanko était aussi. Voilà, je précise l'histoire du film, le début de vie du film à Sarajevo.
Bonsoir. Je dois d'abord remercier aux gens qui ont organisé et m'accueilli dans votre jolie ville. Je tremble là maintenant parce que ce film a bien expliqué comment ça marchait pendant la guerre. Il a très bien expliqué et je l'ai vécu tout à l'heure de nouveau. C'est à cause de ça que je tremble un petit peu. Je me souviens de tout ce qu'on a vécu pendant la guerre. Et je dois remercier Rémi, c'est pour la première fois que je lui remercie de faire ce film. Ce film magnifique qui a expliqué, qui a bien expliqué tout ce qu'il se passait dans cette ville. Et Rémi, c'est aussi quelqu'un qui a vécu avec nous. Il était à Sarajevo depuis 1992, il était toute la guerre là. Et voilà, je te remercie, Rémi. Je me souviens de tout et tout ça revient comme ça. Je jure, je l'ai vécu tout à l'heure sur la guerre. Merci encore une fois et c'est tout.
Merci beaucoup Stanko, merci Jean-Claude. Juste un mot pour préciser, tu as totalement raison sur la fin de la guerre et le rôle de Chirac, qui a vraiment été l'élément déclencheur, qui a permis une fin à 5 guerres, avec évidemment ensuite Clinton. Mais comme vous le constatez dans ce film, il n'y a pas un seul mot sur l'extérieur, donc il n'y a pas l'ennemi, il n'y a pas la diplomatie, et il n'y a même pas la politique interne bosniaque. L'idée n'était certainement pas de faire un film sur la guerre de Bosnie, et ni un film journalistique, ni un film historique. Je l'ai couvert cette guerre comme reporter, puis je l'ai vécu comme être humain. Enfin, là, le projet du film était vraiment autre chose, c'était de raconter les assiégés, sans s'étendre sur le pourquoi, l'avant, l'après, l'extérieur, etc. Du coup, je voulais raconter ces gens, leur rendre hommage, et un film que j'espère, enfin radical dans son point de vue, sur la survie, sur la résistance, sur l'humanité, à la limite, un film qui les dépasse, j'espère. Enfin, il me semble, moi, que ça, enfin, pour moi, c'est Sarajevien, représente quelque chose d'éminemment universel, et donc c'est pour moi pas un film sur la Bosnie, voilà, c'est un film sur nous tous à travers eux.
Moi, ce qui m'a frappé pendant qu'on montait le film et qu'on cherchait les images, c'est le fait que ce film soit extrêmement d'actualité. Ça se passe aujourd'hui. Et quand j'étais à Sarajevo, j'avais l'impression que ça ne pouvait plus jamais arriver, parce que ce n'était pas possible que ça se reproduise. Voilà, c'est QFD, donc. Donc ça, c'est une des choses qui m'a marqué. Et un des plus beaux compliments que les gens de Sarajevo ont fait à Rémi Urdan après qu'on l'ait projeté à Sarajevo, c'est qu'ils sont venus le voir et ils lui ont dit « Tu nous as débarrassé de cette guerre. Enfin, on a notre histoire et on est libéré de cette guerre, de ce siège. » Et ce qui est formidable dans ce film, c'est que vous nous avez montré comme des résistants et pas comme des victimes. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment résisté d'une manière incroyable. Mais aujourd'hui, il y a d'autres gens qui résistent de la même manière et la communauté internationale ne fait pas grand-chose. Alors, on va pas demander à Chirac de le faire parce qu'il ne se rappelle plus. Mais ce serait peut-être pas mal de lui en parler.
Je voudrais juste ajouter un mot, excuse-moi, parce que c'est dit dans le film et le film le fait très bien ressortir. Tu as raison, ce n'est pas du tout un film où il y a de l'analyse politique, où on désigne l'ennemi, etc. Il est quand même clairement montré que les tchétniks en face sont des cinglés, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans la pathologie, dans la folie. Et comme j'avais pris quelques notes, comme j'y suis allé, que je garde mes notes, j'ai relu les quelques notes que j'avais prises à l'époque. Et je me souviens, alors je parle sous ton contrôle, j'avais pris des notes à propos d'un tchétnik qui avait été capturé et qui avait été interrogé et qui avait avoué qu'avec son fusil à lunettes, il s'arrangeait pour tuer un enfant avec sa mère parce que la mère se précipitait et il trouvait très intéressant d'observer la réaction de la mère devant son enfant mort. Il avait dit ça textuellement et j'avais noté cela. Je pense que, voilà, cette espèce de cruauté absurde, quoi, cette barbarie qui vient des collines, ça ne pouvait pas être dit avec plus d'obscénité que ça.
Il y a deux micros de votre côté qui se promènent, demandez-les, et s'il vous plaît, on est à votre disposition pour des questions, mais si vous ne voulez pas poser de questions, juste en parler, faire des commentaires, on est tout oui.
C'est une question de curiosité. Nous avons eu la chance de rencontrer Bill Carter en 2008, qui est venu à Caen, qui a publié Les ailes de Sarajevo, traduit en France en 2008. Et certaines des images m'ont semblé avoir été empruntées à son film Miss Sarajevo. Est-ce que je me suis trompée ?
En l'occurrence, oui. On a fait 5 ans, hein, on a ramassé toutes les archives qu'on pouvait, etc. Pour moi, il y a deux films qui sont faits à chaud, les premiers 2 ans de la guerre, qui restent des chefs-d'œuvre absolus, dont celui de Bill Carter, Miss Sarajevo, et un autre d'un franco-yougoslave, Radovan Tadic, qui s'appelle Les vivants et les morts de Sarajevo. Donc c'est vraiment pour moi des films cultes, etc. Par contre, Bill ne donne ses archives à personne. Voilà. Donc il y a des archives de, je sais pas, 80 sources différentes dans ce film, mais pas de Bill Carter, il prépare un autre film. Après 25 ans de réflexion, etc., il veut refaire un film sur Sarajevo, pour votre information, peut-être qu'il sera là un jour. Son film est merveilleux, mais non, il n'y a pas d'archives de lui dans celui-ci. Et des archives de presque tout le monde sauf lui.
D'une grande violence, ayant toujours vécu ici, dans mon petit confort, je suis très émue et frappée. Et merci pour votre fil, parce que dans cette humanité qui ressort, ce que je retiendrai, c'est Sarajeviens ont survécu psychologiquement grâce à l'art. Et il faudrait peut-être chacun de nous se recentrer sur l'essentiel de nos existences. Banale, quotidienne, remplie de choses inutiles. La place de l'art. Voilà. Merci pour ce message, en tout cas.
Merci beaucoup, et je signale, parce que ça n'est pas présent dans le film, que Stanko, qui est plus là dans ses unités de la guerre et je précise pas le pourquoi, du comment, les noms, les machins, mais avec son copain, Topa. Enfin voilà, qui est dans le film et plus présent comme ça. Par ailleurs, lui, il bossait pour aussi au centre culturel, dans la culture, ensuite, etc. Voilà, beaucoup aidé dans ce domaine-là. Je pense que oui, c'est pour Sarajevo. J'ai toujours eu l'impression que les deux étaient aussi importants. Quoi.
Pour aller dans le sens de la question de la dame, peut-être que je me trompe, mais il me semble que à 2 ou 3 reprises, on voit cet orchestre symphonique au milieu des ruines. Et il n'est pas précisé, mais je crois me souvenir que c'est les ruines de la bibliothèque. Ouais. C'est ça. Donc c'est les ruines des livres. Tout d'un coup, la musique symphonique est là, au milieu de ces ruines. Et en circulaire comme ça, je crois me souvenir, j'y avais été, c'était les ruines de la bibliothèque de Sarajevo. Donc les ruines de la culture.
J'ai une question par rapport à... parler cet après-midi par rapport à la mémoire, en tout cas à la conservation de cette histoire. soir. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, d'une espèce de musée, je crois qu'on le voit un petit peu à la fin, là où il y a des affiches, justement, qui ont été faites par des artistes, où il y avait aussi la reconstitution d'une pièce d'un bâtiment sous le siège. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en œuvre, en fait, par la ville ou par le pays, justement pour conserver la mémoire des habitants. Il y a la survival map aussi qui était au début. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ou qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à cette histoire?
La réponse est simple, rien n'est mis en œuvre. Voilà. Alors d'abord, pour parler du film, il n'y a pas d'image de ce petit musée qui existe aujourd'hui, puisque aucun élément dans le film ne sort du siège, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le film, les vidéos, les photos, les musiques, tout est du siège. On ne sort jamais du siège, c'était le principe du film. Et il y a deux sons venus de l'extérieur, mais qui ont été captés par les Sarajeviens. C'est le son du général des ennemis qui dit « rendez-les fous », mais ça a été capté par des radios amateurs sarajeviens et diffusé sur la radio de Sarajevo du siège. Et l'autre, c'est la chanson du Doubs, en emblème, que les Sarajeviens se sont appropriés, la chanson de Bono, Miss Sarajevo. Mais parce que moi je les ai vécus par le siège. Voilà. Et donc rien ne sort du siège. Donc il n'y a pas une seule image d'après-guerre, par exemple. Juste pour être clair sur le film. Quoi. Je voulais que le film, on s'enferme dans le siège. Alors sur la mémoire, Stanko peut en parler. Peut-être mieux que moi, juste un mot. Non, personne ne cultive cette mémoire. Il y a effectivement un petit musée qui vit avec 3 francs 6 sous, organisé par 3 filles absolument formidables, près de l'ancienne ligne de front, mais il n'y a toujours pas le musée du siège. Il y a un projet qui existe, mais qui n'existe toujours pas. Il n'y a pas de soutien politique, parce que le pays est toujours divisé entre les 3 nationalismes. Donc ces Sarajeviens-là, qui ont défendu l'idée de vivre ensemble, ne sont toujours pas représentés politiquement. Donc aucun politique ne va soutenir un musée, par exemple, qui représenterait cette option politique. Ce qui est commémoré, c'est des fêtes nationalistes serbes, croates ou bosniaques musulmanes, mais pas cette idée de Sarajevo et du vivre ensemble. Aucun politique ne les représente. Et donc, il y a des ONG, des activistes qui font un travail extraordinaire, mais par exemple, sur les vidéos, ça nous a pris 5 ans aussi parce que ça n'avait pas été fait. Tout le monde allait piocher un peu dans les disques durs des copains, mais ce travail de répertorier, digitaliser, identifier les ayants droit, retrouver les vrais auteurs, etc., ça n'avait pas été fait. C'est aussi pour ça que ça nous a pris des années et que maintenant c'est à disposition du coup. Alors, sur une petite échelle, enfin, c'est pas toute la guerre de Bosnie, c'est le siège de Sarajevo et qu'à l'intérieur, mais on a fait ce travail. Et aujourd'hui, vous allez voir la coproduction de ce film, bosnienne. Voilà, ils ont tout répertorié, ça existe, on sait où c'est, on sait qu'il faut payer. Enfin voilà, ça par exemple, ça n'avait pas été fait parce qu'il n'y a pas de musée ou d'université par exemple, ou de fondation qui avait fait ça. Donc on a modestement débroussaillé le terrain et contribué, je pense, à la mémoire de la ville, à notre échelle. Voilà, mais Stanko peut en parler, par exemple, quand une unité, comme son unité du début de la guerre, vous êtes quoi, 20 dans un café, enfin, il n'y a pas de célébration, non, il y a la mémoire de la guerre.
La mémoire de la guerre, on dit quoi, c'est ça, comme a dit un mec dans le film, c'est passé petit en petit, on n'était pas conscient que ça arrive, c'est le jour passe, et les gens commencent à mourir. On n'est pas conscient vraiment, on s'habitue de vivre dans les conditions de guerre. On s'habitue, tout est devenu normal. On voit les gens qui sont blessés sans les mains, sans les jambes. C'était rien de spécial. Et aujourd'hui, c'est à cause de ça que je dis tout à l'heure, c'était pas pour être poli de remercier Rémi Jordan. C'est, à mon avis, je sais pas moi, c'est à cause de ça que je dis merci Rémi, c'est à cause de ça, c'est un souvenir, un des rares souvenirs de le siège qu'on a eu à Sarajevo. Les gens ne s'occupent pas. J'ai dit aujourd'hui à quelqu'un, ils m'ont demandé comment ça se passait la guerre. Je dis, je l'ai oublié, c'est fini, c'est 20 ans passé, je ne me souviens plus. Mais là, quand je regarde ce film, ça revient comme ça. Et il faut avoir plus de choses comme ce film, des musées, comme vous dites, des souvenirs. Il a bien dit, Rémi, les gens ne s'occupent pas, c'est la politique qui ne se tient pas. On a toujours. J'ai parlé avec un copain qui est un journaliste de AFP. Et je lui ai dit, je dis quoi aux gens à Bayeux? Il a dit, tu dis, c'est le siège toujours. Aujourd'hui, c'est le siège des partis nationalistes, des jeunes nationalistes qui s'occupent que d'eux-mêmes. Parce qu'en Bosnie, c'est comme on connaît Serbes, Croates, Musulmans. Et tous les autres, on dit Sarajeviens, ils ne sont pas reconnus par la Constitution. Et voilà, je dis aux gens, je ne veux pas être constitutif par un groupe de gens, par Serbes, je ne sais pas, Croates, un petit groupe. Je veux être constitutif en Bosnie par la ville où je suis né, par le pays où je suis né. Mais on n'a que Serbes, Croates et Musulmans, Bosniaques. Trois constitutifs peuples. C'est toujours la même chose. Ça veut dire que les partis nationalistes vivent encore. On vient d'avoir les élections locales. Ce sont déjà partis nationalistes qui ont gagné. On a eu aussi un référendum à Republika Srpska. C'est aussi nationalistes qui ont sorti, qui ont gagné. Ça veut dire qu'on est même presque même à 1992. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. J'espère que, presque je suis sûr, ça ne va pas se recommencer. Mais je pensais la même chose en 1992. On dit, mais non, c'est impossible, c'est incroyable, la guerre ne va pas venir chez nous. Et voilà, c'est venu. C'est bonne leçon pour tout le monde comment il faut faire. Il faut hésiter, les conflits. Bon, voilà, merci.
Qui concerne l'après Sarajevo, enfin l'après siège. Actuellement, enfin vous parliez des élections sur tout le pays, mais est-ce qu'il y a encore un esprit Sarajevo que vous avez décrit dans le film en fait, qui est décrit comme plutôt fraternel, multiculturel, multiethnique. Actuellement, est-ce qu'il y a encore un semblant de quelque chose comme ça à Sarajevo dans la ville?
Oui. D'abord, je suis désolé, je ne peux pas vous regarder parce qu'au-delà d'un certain rond, on voit personne. Mais salut. Oui, ça existe encore. Et je dirais que, par contre, ils n'ont pas gagné le dernier jour de la guerre, les Sarajeviens, qui ont décidé de vivre ensemble et qui ont été une sorte d'îlot incroyable de résistance dans cet océan de tous les nationalismes. Hein. Dans cette région, la lutte continue d'une autre manière. La lutte continue dans la paix, la lutte continue par la culture, par les politiques, par la vie, par plein de choses. Voilà, oui, ça existe encore, mais c'est pas une victoire claire et nette. Ils sont toujours face à des nationalismes qui sont plutôt dominants même dans le pays. Voilà. Donc, mais ça existe. Il y a une partie de. Oui. Nous, on vit dans un Sarajevo, et moi j'y vais tout le temps, qui défend toujours les mêmes valeurs et qui continue à vivre ça. Mais c'est loin d'être gagné.
Rémi, on peut se demander si c'est gagné chez nous. Je veux dire, par là, nous sommes à la veille d'échéances dans lesquelles chacun va essayer de nous enfermer dans une identité. Moi, je n'ai pas envie d'être enfermé dans une identité. Je ne désigne personne, mais enfin, vous comprenez bien à qui je fais allusion, cette espèce d'exclamation sur il faut retrouver l'identité nationale, les racines, etc. Moi, j'ai plutôt envie, pendant les mois qui viennent en France, de me sentir sarajevien.
Bravo. C'est un slogan qui sera peu présent dans les primaires des deux camps, je pense. Mais je suis d'accord avec toi. Non, comme disait Patrick tout à l'heure, l'écho à l'actualité, on le sent en parlant avec tout le monde, dans les projections qu'on voit, etc. Moi, je l'ai senti, évidemment. Moi, c'était pas du tout un processus... intellectuellement, c'était pas un choix politique de faire le film maintenant. C'est que j'ai toujours su depuis 20 ans que je voulais raconter Sarajevo d'une autre manière que journalistique. Donc, me détacher des faits, de l'histoire, du reportage, etc. Enfin, pas du reportage, mais me détacher du factuel pour donner un point de vue sur les assiégés de Sarajevo, etc. Il est évident qu'on a commencé il y a 2011-2012 et que tout le processus de fabrication de ce film, on assiste à des choses en Europe qui nous rappellent vaguement ce qu'a vécu cette Europe de 89 à 91, 92, 93, etc. Et notamment dans les Balkans, mais pas seulement. Donc c'était un peu troublant, c'était pas du tout calculé, c'est pas du tout, bien sûr c'est un film très politique, mais je veux dire, c'est pas, ça s'inscrivait pas dans une logique de politique immédiate du tout. Mais je crois que oui, c'est une leçon, que les Sarajeviens donnent une leçon à l'humanité, mais notamment aux Européens, et qu'il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention avec le nationalisme. Faire attention avec le populisme, il faut faire attention avec le mensonge, il faut faire attention avec les politiques qui manipulent les foules, avec des idées simples ou simplistes ou proches de criminels. Enfin, il faut faire attention, quoi. La paix n'est pas gagnée, la paix, c'est pas l'état normal. On vit un peu dans un rêve ici depuis 45. La paix n'est pas l'état normal. Sur la plupart de la planète, c'est la guerre. Enfin, il faut faire vraiment gaffe, quoi, quand on est en paix. Peut revenir vite, et ils l'ont vécu en 92. Je Stanko pense que ça ne reviendra pas, et je leur souhaite, mais je trouve que c'est pas gagné dans les Balkans. Mais par ailleurs, je vois ici des échos avec les mêmes idées. Alors, on va exprimer beaucoup plus poliment, beaucoup de vernis, de beaux costumes. Enfin, faut faire gaffe quand même un petit peu, quoi. Il faut pas juste dire on est un peu fâché, on va faire confiance à un populiste pendant 6 mois, parce qu'une fois qu'on donne un peu de marge de manœuvre à ces gens-là, ils restent. Après, on perd le contrôle. Enfin, faites gaffe.
Juste une précision. Pour tout à l'heure, vous avez dit sur la fraternité de Sarajevo. Sur la Sarajevo, fraternité de Sarajevo. Aujourd'hui, elle est islamisée à 100%.
Je viens de répondre à cette question. Non, non, non.
À 100%, monsieur.
Vous êtes allé récemment ?
Au mois de juillet.
Je
précise seulement encore une chose. On ne trouve même pas d'alcool aujourd'hui à Sarajevo.
C'est faux, monsieur. C'est complètement faux. Il y a de l'alcool dans tous les bars à Sarajevo. Mais bon, c'est juste faux, je suis désolé. C'est faux. Mais peut-être tu veux en parler.
Ouais. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas islamisé 100%. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas comment on dit. Vous dites Ben, la mosquée, oui, mais
elle est depuis 6 siècles.
Oui, mais vous disiez qu'il n'y a pas d'alcool à Sarajevo. Ce n'est pas vrai. S'il y a des
centres de café. Mais je t'en prie, tous les soirs dans un bar à vin, je vous le conseille. Il est... Vous n'en aurez pas autant à Bayeux.
Il y en a beaucoup sans alcool, mais ce n'est pas du tout islamisé complètement. Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de mosquées. Il y en a partout. On a deux entités, Republika Srpska et Fédération BIH. Et chacun fait ses mosquées à son côté. Les Serbes font aussi, les Croates, la Herzégovine, les musulmans à Sarajevo et à la colline. C'est vrai, ça, il y a plus en plus de l'hôtel de cafés qui n'ont pas d'alcool, c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas tout, du tout qu'il n'y a pas d'alcool à Sarajevo.
Tout est acheté par les Émirats et l'Arabie Saoudite.
Partout, il y en a beaucoup qui viennent, qui achètent, mais partout. Il y en a, c'est vrai, il y en a beaucoup, plus en plus, mais partout.
Pardon monsieur, ce que vous décrivez est une tendance qui existe, pas seulement en Bosnie, une tendance qui existe, mais c'est pas vrai que c'est tout, c'est ce que vous dites est très 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 exagéré, ils ont acheté trois... Les Saoudiens ont acheté 200-300 centres commerciaux. Non, mais on va s'arrêter là, parce que par ailleurs, on ne va pas faire une thèse ce soir sur la Bosnie et l'islamisation des Balkans, parce que juste ça n'existe. Enfin, 95% des cafés à Sarajevo servent de l'alcool. Donc voilà, la tendance existe, mais c'est très, très, très exagéré.
Bonjour. En tant que journaliste, je voudrais que vous nous racontiez comment vous viviez, vous, le siège, comment vous pouvez faire pour transmettre à vos agences respectives vos images pour pouvoir entrer et sortir. Vous les transmettiez en fait.
Alors Patrick peut parler de entrée-sortir, parce que donc lui est un reporter qui couvrait tous les conflits de la planète, si tu veux en parler. Moi je vivais là-bas, je peux vous en parler aussi.
Effectivement, moi je, comme je couvrais d'autres conflits, il y avait à ce moment-là, il y a eu la Somalie, il y a eu plein d'autres. Donc je partais de Sarajevo, j'allais ailleurs, je revenais. En fait, on prenait un avion tout simplement. Enfin, la première fois, je suis venu avec une voiture soft. Comme on disait, normal. Elle a très vite été cassée. Donc, et le photographe de Sigma qui était avec moi en traversant a reçu une balle dans le cou. Donc on a obtenu un énorme budget pour acheter une voiture blindée, 30 000 euros. Et j'ai mis un certain temps à la trouver. Je suis revenu en voiture. Les Serbes m'ont laissé passer. Et sans ça, on prenait les vols de l'ONU qui s'appelait Maybe Airways. Alors il y avait un moyen assez rapide, il y avait DHL, enfin on l'appelait comme ça, c'était PHL en fait. Et chaque fois qu'il venait, il suffisait de lui dire j'ai trois photos de toi et je travaille pour match, et il prenait nos films. Donc on l'avait surnommé DHL. Sans ça c'était, oui c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait voilà, discuter avec les Serbes au barrage, laisser des cartouches de cigarettes, voilà. Peu des négociations, il y avait des petits passages assez dangereux à faire très très rapidement, mais sans ça c'est une guerre comme disait Rémi où on pouvait effectivement changer de camp. Moi j'ai pas mal couvert le côté serbe, le côté croate, à Mostar, etc. Donc on pouvait circuler dans le pays, d'abord c'est pas très grand, et ensuite les types finissaient par nous connaître. Voilà. Donc, mais Rémi par contre c'est différent parce que lui il vivait dans la ville mais ça n'empêchait pas de sortir.
Voilà, donc je vivais à Sarajevo, mais par contre, donc je sortais peu dans le monde extérieur, mais je sortais tout le temps. D'abord, j'allais côté serbe quasiment chaque jour, à Palais, voir la bande de Karadzic, faire des interviews, me ravitailler, parce que dans le siège, j'avais peu de... Donc de la nourriture, de l'essence, et des clopes, et pour les Sarajeviens, pour tous ceux qui travaillaient avec moi, ou les amis, ou les... Voilà. Et on pouvait plutôt circuler dans le pays. Il y a eu quelques restrictions, mais enfin, c'est plutôt une guerre, on avait beaucoup d'accès, on pouvait passer en les trois camps, ce qui est assez incroyable, sans repasser par des pays extérieurs, changer de passeport, changer de visa, changer de je sais pas quoi. On pouvait traverser des No Man's Land et des lignes de front, ce qu'on fait très rarement en reportage, grâce à ces routes de l'ONU qui desservaient l'aéroport et les convois de l'ONU. Donc j'allais très souvent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, accessoirement, les journalistes ont eu beaucoup, beaucoup de pertes là-bas. Je vous en ai les 70-80 morts et 200-300 blessés, ce qui fait beaucoup. C'est aussi parce qu'on traversait des no man's land, donc c'est dangereux de traverser des no man's land. Enfin, c'est même pas recommandé du tout en général. Donc, parce qu'il y a forcément un sniper un peu idiot ou mal intentionné d'un côté ou de l'autre qui va s'amuser. Voilà. Donc, on a eu plus de 300 reporters au tapis quand même, tués ou blessés. Et les humanitaires en ont pas mal. Je sais pas qui pouvait traverser. Enfin, fallait un badge de l'ONU, quoi. Bon. C'était très enrichissant quand même pour le journaliste d'aller pouvoir couvrir les deux côtés tout le temps, y compris le même jour, dans la même bataille, entre guillemets, si on peut parler de bataille. En tout cas, ça m'est arrivé mille fois d'être avec les artilleurs le matin qui tiraient sur Sarajevo, après avoir fait des interviews avec l'état-major serbe, avoir acheté mes œufs, mon bidon d'essence, et de redescendre, prendre leurs obus sur la tête toute la journée. Donc on n'en vit jamais ça dans la plupart des guerres. Bon. Donc c'est plutôt pas mal pour le journaliste, c'est plutôt un peu bizarre. Voilà. Alors sur tout ça, pris de donc nombreux déboires, jerricanes d'essence et cartouches de cigarettes laissées en pourboire, bakchich, rigolade, partie de billard au checkpoint. C'était horrible. Il fallait des fois jouer au billard 2 heures dans une petite baraque un peu pourrie. Et faire semblant de faire copain-copain et boire 2 litres de Slivovitz juste pour passer avec un coffre avec des jerricanes d'essence. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est rigolo. À l'époque, c'était fatigant de faire ça tous les matins parce que d'abord 2 litres de Slivovitz. Bon, enfin bon, voilà. Ouais.
C'est vrai qu'on le voit dans le film, hein, c'est une ville qui est vraiment entourée de collines. Donc les Serbes étaient très proches. Moi, une fois, je suis monté ce qu'ils appelaient au-dessus du cimetière juif. Et j'étais sur un poste de tir serbe, enfin plus haut. Et à un moment donné, j'ai demandé au sniper si je pouvais regarder à travers son fusil, parce que je voyais mon hôtel. Et j'ai retrouvé ma fenêtre et je pouvais compter les trucs qu'il y avait dans ma piole. Donc là, je me suis dit, il faut que je change. Il y avait des bonnes chambres et des mauvaises chambres. Vous m'avez fait avoir. Et oui, c'était très très proche. Hein. Et il y a l'anecdote que tu me racontais, Rémi, où un jour les Serbes avaient pris la rive où il y avait la poste, et très énervés.
Au siège, c'était avant le siège en fait.
Ah bon ?
C'est les 4 semaines de. Avant le siège. Il y a eu 4 semaines de combat avant le siège, où les milices quoi, se baladaient dans la ville.
Oui, donc ça
sur l'histoire de la poste. Où c'était le bazar, juste au tout début. Là. Il y a eu 4 semaines de bazar, on va dire, avant que le siège s'installe.
Les lignes changeaient souvent, hein, c'est ça.
Il y a un Serbe. Pas de ligne, moi, je crois. Oui, enfin, j'étais pas, c'est 4 mois.
D'un côté, il y avait les Serbes qui avançaient, qui reculaient. Et à un moment donné, il y a un type qui a marqué sur la poste, ici, c'est de commence, ou ici
c'est la Serbie.
Et évidemment, il y a un Bosniaque qui est revenu le lendemain ou le surlendemain et qui a marqué, mais non, c'est la poste, connard. Déjà, l'humour primé.
Enfin, moi j'avais une interrogation, c'est on parle du siège, et en fait je me demandais si en fait les Sarajevins ont eu le choix en fait avant le siège de partir ou pas. Et je voulais poser la question à monsieur qui est de Sarajevo, comment ça a été possible en fait que 350 000 personnes aient pu, comme ça, se retrouver encerclées par des fous nationalistes. Et à quel moment, en fait, jusqu'à quel moment, parce qu'effectivement, il y a un moment, il y a une personne qui témoigne, qui monte dans un bus et qui, en fait, qui redescend du bus, quoi.
Ça, c'est les 4 semaines que j'évoquais, là.
Oui.
C'est le bazar ouais. Et où tout le monde était libre de partir.
Et c'est vrai que
quand on
voit voilà, ces 4 années-là, on se dit qu'il aurait mieux fallu partir.
Je crois qu'il... Non, mais il n'imaginait pas... Enfin,
oui, non, mais et en fait, je voulais poser la question, je voulais poser juste la question, oui. Parce que tout à l'heure, on parlait de la situation, notre situation aujourd'hui, où on peut avoir des inquiétudes. Et voilà.
Ouais. ne sont pas les mêmes.
C'est pas, c'est pas les mêmes, mais en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est...
Je pense que tous qui m'ont dit toute la guerre, c'est... Si la plupart ne sont pas partis ces quatre premières semaines, avant que ce soit le siège, avant que ce soit fermé, c'est parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils disaient, c'est le crétin qui tire des quelques rafales, enfin... Mais dans une semaine, c'est fini, enfin, ils n'y croyaient pas. Enfin, Stanko l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, d'une autre manière, mais ils n'y croyaient pas à cette guerre.
Bah oui, mais on ne réfléchit pas de partir. On croyait que ça va s'arrêter, ça va durer quelques jours. Ils ont reculé chez eux, on n'a rien changé. On n'avait pas besoin d'aller ailleurs. On était chez nous, dans nos maisons, avec sa famille, ses parents, ses enfants. Et on n'avait pas besoin au début de partir. On croyait que ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer, je ne sais pas, 10 jours, 15 jours, et ça passait petit en petit. Après, on était tourné dans cette ville et on ne pouvait pas sortir. On ne voulait pas sortir, on ne voulait pas laisser, je ne sais pas, ses parents, sa famille, sa maison, ses amis. Parce qu'on était tous ensemble, il y avait cette fraternité, on était ensemble, on a vécu bien ensemble, on essayait de survivre ces quelques jours, et après ça va passer. Ça va passer. Comme c'est commencé, comme ça, ça va passer. Mais non, ça a duré. Après, c'était impossible de partir. Moi, je ne sais pas, je ne voulais jamais partir de ma ville parce que je peux presque dire que je n'avais pas un problème, moi, individuel, aucun problème. Mais je ne voulais pas partir, je voulais rester dans ma ville. Je voulais rester avec mes copains parce que tout le monde qui sont partis, je ne le connaissais pas. Et tout le monde qui était autour de moi, c'était mes amis. Je ne regardais pas qui est musulman, serbe, croate, on ne savait pas. Les gens normaux, ils ne savaient pas qui est qui. On n'a pas demandé, c'est le nom et prénom qui est différent. Hein. C'est un nom de serbe, croate, musulman, mais on ne réfléchissait jamais qui est qui. Et je voulais rester avec mes amis. Tous mes amis, ils étaient là. Et c'est à cause de ça que j'ai resté aussi à Sarajevo et je ne voulais pas partir.
Dani Stanović, il le dit très bien dans le film, il dit « J'aimais ma ville et j'étais prêt à mourir pour elle. » Les gens, ils aiment leur ville, d'ailleurs, Sarajevo, mon amour. Enfin, ils aimaient leur ville, c'est tout. Il y avait... C'était vraiment... Mais
Patrick, il y a ce témoignage.
C'est pas le moment de partir, justement. Si la ville qu'on aime est en danger, il faut rester.
Il y a ce témoignage que j'ai trouvé magnifique de cette dame qui dit « Pendant des mois, j'attendais le lundi. » Parce que je me disais « Lundi, ça sera fini, lundi, ça sera fini. » C'est magnifique, parce que ça donne... En quelques mots, on comprend un peu la mécanique mentale qui se met en place et qui peut durer très longtemps. Ça sera lundi, ça sera lundi, parce que ça paraît insensé que les choses continuent, quoi. Et puis les mois passent. Et les milliers de victimes s'additionnent, quoi. Et c'est toujours pas lundi.
Et l'unité, à un moment, il y a un commandant, enfin, vous comprenez que c'est un chef un peu carré, avec des cheveux un peu longs, qui dit mon unité est restée multiethnique jusqu'à la fin de la guerre, etc. C'était cette unité de Stanko et qui était. Aujourd'hui son meilleur ami et on va aujourd'hui dans ce café de notre ami Topa, ton témoin de mariage et ton meilleur ami mariage mixte, mais on va encore aujourd'hui dans ce café de cet ex-commandant qui a un bar à vin, monsieur, on sert beaucoup d'alcool et de très bon vin, et aujourd'hui c'est toujours aussi multiethnique et Stanko et ce gars-là ne sont pas de la même communauté et les autres clients non plus, voilà, donc j'ai pas dit que c'était simple ou facile ou évident, mais enfin voilà, ce qu'ils ont défendu en 92 est toujours là aujourd'hui, dans exactement le même endroit, le même café, la même cour, en plein centre-ville. Et ça a lieu tous les soirs.
Comment était perçu le rôle de l'UN par les Sarajevins pendant
et par vous-même les journalistes.
L'ONU ?
Ouais.
On en parle. Par les Sarajeviens comme une totale impuissance, évidemment. Alors on l'aborde très peu dans le film, je voulais quand même en mettre un mot parce que ça fait partie du siège, mais comme je ne voulais pas mettre la politique internationale, la diplomatie, tout ça, on ne s'étend pas dessus. D'abord, un mandat absurde puisque c'est un mandat de maintien de la paix. Quel sens ça, le maintien de la paix en pleine guerre ? Et quel sens ça d'envoyer des soldats s'ils n'ont pas le droit de tirer un coup de feu ? Enfin, tout était absurde. Il n'y a pas de maintien de la paix quand c'est la guerre, il n'y a pas de besoin de soldats quand ils n'ont pas le droit de se battre. Je veux dire, tout ça a été absurde, donc les arrivés ont assez vite compris l'absurdité de la chose, évidemment, en dehors du fait que quand même il y avait ce pont aérien qui a permis de survivre un peu à coup de sacs de farine, de boîtes de conserve périmées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, j'ai vu des colis arriver de l'ONU. L'ONU, c'est nous. Hein. Enfin, c'est l'UE, c'est les paquets faits par les pays, par les gens qu'on élit, etc. Je me souviens d'une boîte de conserve norvégienne arrivant à Sarajevo en 93, périmée 87. Enfin voilà, ce qu'on donnait à manger, ça arrive bien. Donc bon, voilà. Donc forcément, l'image de l'ONU ne pouvait pas être flamboyante, c'est moins qu'on puisse dire. C'était l'impuissance totale, l'absurdité du mandat, l'absurdité politique. Et nous, journalistes, d'abord, on n'est pas plus idiots qu'un Sarajevien, donc on pensait à peu près à la même chose. Et puis... par ailleurs, on les fréquentait tous les jours. On allait à leur briefing, la mascarade quotidienne. J'avais pas trop d'attendre. Ça allait très loin. C'est-à-dire que non seulement il y a tout ça, que santé les Sarajeviens et tout, mais nous, on ressent, c'est le métier. Parlant avec le, il y avait un briefing avec un représentant politique et un représentant militaire tous les matins. On allait quand même aller voir de temps en temps. Et par exemple, l'ONU, pendant 3 ans et demi, n'a pas parlé du siège de Sarajevo. N'a pas dit que Sarajevo était assiégé. Les ordres de New York, c'était de dire les belligérants, ils n'avaient pas le droit de dire un assiégé, un assiégeant. Parce que ça aurait été prendre parti. Nous, on est censé dire la vérité, les journalistes. La question, vous voyez, ce éternel débat, neutralité, objectivité, je ne sais pas quoi, toutes ces histoires. Nous, on est censé dire ce qui se passe réellement. On est censé décrire la réalité. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a un siège. Par exemple, l'ONU, pendant 3 ans et demi, n'a pas dit qu'il y avait un siège. Donc c'est lunaire, quoi.
On peut ajouter, Rémi, si tu le veux bien, on peut ajouter, moi, après tout, j'ai le droit de le dire, j'ai eu un moment où j'étais très humilié, c'est quand Bernard Kouchner a convaincu Mitterrand de faire un saut à Sarajevo, pour rien, en fait, comme ça, pour faire un signe. Et je me souviens du lendemain, dans le journal Libération, il y a eu un papier vengeur de Ronny Broman, disait Monsieur Mitterrand a atterri à Sarajevo comme président de la République française et il en a redécollé comme président de la Croix-Rouge. Ce qui voulait dire beaucoup de choses, il voulait dire une espèce de d'aveu d'impuissance. On fait rien.
Il a répondu Mitterrand quand on lui a posé la question, il a dit que c'était trop compliqué.
Oui. Donc de tout ça aussi, on n'est pas fiers non plus.
Le lieu a pas tellement changé aujourd'hui.
C'est honnête.
C'est très bien. Enfin, l'ONU n'est que la somme de la politique des États, si tu veux. Donc, l'ONU, c'est très bien. Surtout. Oui, la charte, d'accord. Mais enfin, bon, des principaux dirigeants de la planète. Quand le mandat est clair, j'ai connu des endroits où l'ONU a été super efficace. Hein, l'après-guerre en Sierra Leone, le Timor oriental, je ne suis pas allé, mais qui est comparable à la Sierra Leone à peu près la même époque. L'ONU a très bien travaillé. Donc l'ONU peut très bien travailler. Ça dépend du mandat qu'on lui donne les États et les principaux États. Quoi. Quand le mandat est absurde, l'ONU se ridiculise. C'est le cas en Syrie en ce moment. Qu'est-ce qu'elle peut faire l'ONU ? Enfin, je suis d'accord. Obama et Poutine n'arrivent pas à se mettre d'accord sans même parler des Syriens. Que peut faire l'ONU ? Donc les pauvres gars là, avec leurs convois qui se font bombarder, enfin, ils sont complètement ridicules. Quoi. Mais ils sont un peu les victimes quand même de l'absence de politique internationale.
Ça donne le vertige, c'est pour ça que je parlais de Chirac tout à l'heure, parce que dans ces situations qui ont l'air bloquées, quelquefois, pardonnez-moi, j'avais envie d'employer un langage vulgaire, mais il suffit qu'il y ait tout d'un coup quelqu'un avec un peu plus de caractère, ou qu'il y en a un peu plus là où il faut, et puis tout d'un coup, là, hop, on a l'impression que la puissance devient puissance et que la chose devient possible, quoi. Et
j'en ai parlé avec...
Les hommes de caractère, ça existe aussi.
existe. Alors c'est rare de changer quand même toute la dynamique de l'ONU. Quoi. Je le crois plus quand c'est un officier d'une armée qui a un mandat clair, d'une armée nationale, etc. C'est rare. J'ai vraiment vu un chef de l'ONU, enfin localement sur le terrain, vraiment changer les choses. Mais j'en ai parlé après la guerre avec un général français qui est connu ici, Morillon, parce qu'il avait à l'époque joué un rôle à Srebrenica, qui a été prise, donc qui était un des 6 sièges en Bosnie, mais celui-là a été détruit. Il a été aussi le commandant des forces pour toute la Bosnie. Mais par ailleurs, il avait un rôle que tout le monde a oublié parce que ça avait peu d'importance. Mais au tout début de la guerre, les premières semaines, il avait un rôle un peu de reconnaissance. Et il avait installé son QG dans un endroit en disant ici, c'est tranquille, il n'y aura jamais la guerre. Ça brûlait 3 jours après, donc c'était un visionnaire. Mais... Et en fuyant avec sa colonne, il y a 3 types qui leur étaient à un checkpoint qui n'étaient vraiment pas là. C'était pas l'armée serbe, c'était 3 paysans quoi, avec des fusils de chasse. Et ils les ont retenus 2 jours. Il y avait 150 soldats occidentaux de l'ONU, armés, mais avec des casques bleus, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Donc ils les ont retenus 2 jours. Et le commandant, qui était général français, ils l'ont fait vider jusqu'à son tube de dentifrice pour l'humilier. Et je l'ai revu une fois après la guerre, je lui ai dit, mais vous êtes quand même un militaire, quoi, vous ne regrettez pas de leur avoir mis 3 balles dans la tête à ces mecs, et ils regrettaient beaucoup. Tout en reconnaissant que ça n'aurait peut-être pas changé la politique de l'ONU dans les Balkans, évidemment. Ils regrettaient beaucoup ce jour-là de ne pas avoir franchi ce checkpoint et de ne pas avoir désobéi aux ordres. Mais il ne l'a pas fait. Il a vidé son tube de dentifrice.
Le conflit se limitait seulement à Sarajevo ?
Non, le conflit était régional, enfin l'ex-Yougoslavie, pardon. Il n'a pas commencé à Sarajevo. Il était en Croatie, en Serbie, en 1991, Slovénie, Croatie, Bosnie, Kosovo. Et il s'est fini en Macédoine en 2001, où c'est la seule fois où la diplomatie a réussi, grosso modo, à interrompre le conflit avant qu'il devienne trop grave. Il y a eu quelques dizaines de morts, mais ça s'est interrompu assez vite. Donc ça a duré de 1991 à 2001 et ça a concerné l'ensemble de l'ex-Yougoslavie.
Oui, moi je voulais revenir juste là. Moi je voulais revenir sur les personnes qui sont qui ont donné la parole dans ce film. Je voulais savoir comment elles avaient été choisies. Est-ce que c'est des personnes que vous aviez rencontrées pendant le siège et dont vous vouliez un retour quelques années après, ou est-ce qu'il y a eu un appel un peu à témoignage avec des sélections, ou comment on fait en fait pour choisir les personnes à qui on donne la parole dans un film comme celui-là?
Alors, ça s'est passé de manière assez simple. Quand Patrick et moi sommes allés voir les producteurs, j'ai dit on va interviewer 350 000 Sarajeviens, c'est le moment où ils se sont évanouis, ça va prendre 3 vies. Et on a fait une liste de 100 personnes, non c'est ma liste, c'est des gens que j'aime, que j'ai rencontrés pendant la guerre, certains après-guerre. Il y a une personne dans le film que je n'avais pas rencontrée, bizarrement d'ailleurs, mais enfin qu'on est allé chercher pour des raisons spécifiques, qui dit une phrase sur un truc, enfin voilà. C'est des gens que j'ai rencontrés. C'est ma vision un peu de comment ces 350 000 réduits en 100, on en a interviewé une centaine, puis à la fin, il y en a 45 dans le film au montage. Voilà, après, c'est un film, quoi. On fait notre sauce avec notre propos, notre. Mais l'idée, en tout cas, dès le départ, était de faire une mosaïque, pas d'avoir des personnages principaux comme ça se fait souvent dans le cinéma documentaire. Entre 1 et 5 personnages qu'on suit. Et, l'idée était dès le départ d'avoir une mosaïque sarajevienne, que le vrai personnage c'était la ville assiégée. Voilà, ça c'était les décisions de départ. Et puis petit à petit on a réduit. Mais si vous me demandez. Enfin, moi je pourrais passer ma vie à interviewer les 350 000, quoi. C'est tellement chacun des histoires passionnantes.
Oui, c'est un peu une partie de ma question.
Voilà, c'est ma vision des Sarajeviens. En évacuant déjà tout ce qui est politique, tout ce qui est diplomatique, enfin, etc. C'est une vision du siège, et puis ensuite, avec Patrick, on a petit à petit construit le film.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une, de la part des Sarajeviens et des Sarajeviennes, l'envie de parler du siège, de faire parler partout, ou au contraire de passer à autre chose?
Je pense pas trop. Les Sarajeviens ont envie de parler du siège. Je crois que. Honnêtement, je crois que je bénéficie de. D'un grand cadeau. Enfin, je veux dire, d'une grande générosité de par un statut un peu particulier là-bas, de fait d'avoir vécu le siège avec eux, et en même temps d'être vu quand même comme un professionnel étranger. Je ne suis pas sûr qu'il se serait confié autant, ni pour un type de passage aujourd'hui, ni pour la chaîne locale d'ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de tensions dans le pays. Enfin, je ne sais pas, je crois que enfin, les gens dans les familles et tout ça, ils ne parlent pas beaucoup de ça. Certains m'ont dit, on a raconté des choses à cette caméra qu'on n'avait jamais racontées, même à nos enfants ou à nos proches, quoi. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est difficile de se rendre compte. Enfin, j'ai quand même eu la sensation de bénéficier d'une générosité incroyable, voire pour certains, ils m'ont dit, on n'en a pas parlé depuis 20 ans, on a pris la décision, on en parle une fois, c'est cet après-midi, c'est dans ton studio, et puis demain, c'est terminé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même ça, j'ai senti ça très fortement. Mais certains en parlent plus librement. Certains sont quand même des intellos, des activistes qui ont l'habitude de parler de la guerre ou de la mettre en scène dans des livres, des films, des pièces de théâtre. Mais ça, c'est quand même une toute petite population dans la ville.
Et vous savez, madame, pendant la guerre 14-18, je dis ça parce qu'il y a un livre qui a été écrit, les poilus qui revenaient chez eux pendant la guerre et qui, quand ils sont revenus après la guerre, ne parlaient pas du front. Jamais. Il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelait « Le silence du permissionnaire ». D'abord parce que c'était probablement incommunicable, quand ces gens qui étaient la plupart du temps des enfants de paysans, parce que la France était paysanne encore en 14-18, quand ils se retrouvaient chez eux dans la ferme qui avait été tenue par la femme, avec les enfants qui étaient là, etc., et ils venaient pour 15 jours et ils venaient du front, quelquefois ils venaient d'endroits épouvantables, ils n'en parlaient pas, jamais.
Mais pour parler de siège, il faut être ailleurs. Mais comme on était à l'intérieur, on ne voit pas le siège, on voit un combat pour survivre, on ne se bat pas contre le siège, on se bat survivre. Hein, et on ne parle jamais de siège, on parle de la guerre, on parle de choses, mais parler de siège, il faut être ailleurs. Il faut sortir du siège et le voir de l'extérieur. Mais comme on était à l'intérieur, on ne le voit pas, on a vécu la guerre.
Et ce que je constate à Sarajevo, ce que vient de dire Jean-Claude sur la Première Guerre mondiale, on constate, Patrick, je crois, enfin on en a parlé plein de fois, dans presque tous les conflits, la première génération en parle peu. D'abord, c'est vachement bien, puis il faut aller de l'avant, il ne faut pas non plus s'arrêter, voilà. Donc je pense que ça aide les sociétés aussi à sortir de la guerre, à évoluer, etc. Et que le devoir de mémoire, ce qu'on appelle le devoir de mémoire, d'abord, c'est un peu récent quand même dans l'agriculture. Et puis, il vient plutôt après, quoi. Il vient plutôt à la deuxième, troisième génération. Il faut du temps pour ça. C'est peut-être pas plus mal que les gens, aussitôt après la guerre, ils passent à autre chose, ils essayent, ou peut-être ils font semblant, peut-être ils font pas. Enfin, j'ai pas de jugement là-dessus. Voilà. Mais je constate que beaucoup de Sarajeviens qui s'expriment dans ce film m'ont dit, ce qu'on t'a dit là, aujourd'hui, on n'en a jamais parlé, on n'a pas très envie d'en reparler demain. C'était juste pour ce film et ciao.
Je rappelle que les survivants juifs revenus des camps sont restés 20 ans sans parler. Et c'est leurs enfants qui ont transmis la parole 20 ans après. Ça, j'en témoigne, il y a des appelés qui sont restés 50 ans sans dire un mot de ce qu'ils avaient vécu. Et qui commencent à le dire maintenant, parce que j'en ai accompagné en Algérie.
D'autres questions ? Écoutez, merci beaucoup.